Bonjour, chers frères et sœurs. C'est toujours une grâce d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et je voudrais rappeler que le Seigneur qui connaît nos cœurs, qui voit nos cœurs, n'est pas ici pour nous juger, nous condamner, mais nous prendre par la main pour nous conduire dans ses voies. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Hier, les jeunes ont passé de bons moments. Tout à l'heure, Jacques-Olivier dira quelques mots parce qu'il a accompagné aussi les jeunes. Mais je voudrais partager pour qu'on puisse prier pour ceux qui passent par le deuil. Peut-être quelques-uns au milieu de nous. Notre frère Yann, qui est le pasteur de la jeunesse, a été obligé d'écourter son séjour, de quitter la réunion des jeunes à Vannes parce que son épouse Alexandra a perdu son père hier. Donc, et quand nos frères et sœurs passent par les épreuves, il est tout à fait normal que nous puissions prier, intercéder pour qu'ils soient consolés. Amen. Parce que nous avons un Dieu de consolation. Pour ceux qui sont partis, nous ne pouvons rien faire. Mais pour ceux qui restent, nous voulons prier pour que la souffrance qui est légitime, il n'est pas question d'empêcher les gens de pleurer, au contraire. C'est le signe. Mais par contre, nous prions pour que la souffrance ne vienne pas briser leur vie. Qu'il ne donne pas. L'adversaire cherche toujours à exploiter les situations. Et c'est surtout dans ces moments-là de souffrance, quand on perd un être cher, que, eh bien, on peut être touché, même aller jusqu'à la dépression. Mais pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut nous accompagner. Amen. Alors, si vous voulez, on va prier pour ces bien-aimés. Que Dieu de grâce et Dieu de consolation les bénisse. Je vais demander à Jacques-Olivier de prier.
Alléluia. Vous voulez bien vous lever, frères et sœurs? On va le faire tous ensemble. Seigneur, ensemble, avec l'Église, Seigneur, nous voulons te prier pour Alexandra. Seigneur, pour Yann, pour les enfants, nous voulons te prier pour la maman d'Alexandra, nous voulons te prier peut-être pour ses frères, pour ses sœurs, pour sa famille, pour que tu apportes ton baume de consolation. Toi seul peux le faire, sais le faire, et nous intercédons au trône de la grâce, pour que vraiment, Seigneur, tu la relèves, tu les relèves dans leur cœur, Seigneur. Que ta présence, que ton amour soit avec eux, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu les soutiens dans ces moments-là. Tu empêches l'ennemi de faire son mauvais travail, Seigneur. S'il te plaît, dans le nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 12. On va juste partager un peu sur l'appel, en s'appuyant sur l'appel d'Abraham. Genèse, chapitre 12. Verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Oui, pour quitter son pays, sa patrie, sa famille. Oui, c'est le oui d'Abraham. Oui à l'appel de Dieu. Oui, pour partir, servir, sans savoir où aller. Oui, pour se lever et passer à l'action. Oui, à la paix sur le champ de la mission quand la violence s'invite sur le terrain de la promesse. Le oui d'Abraham, chers frères et sœurs, consistait à quitter son pays, sa patrie, sa famille, en réponse à l'appel de Dieu. Et Esaïe nous pose cette question, et je vous pose cette question. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Je ne vais pas ce matin insister sur le fait que Dieu vous a appelé à donner votre vie. J'espère que vous avez donné votre vie. Amen. Et si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur, eh bien c'est aujourd'hui le jour du salut. Amen. Mais j'insiste sur ceux qui ont déjà donné leur cœur au Seigneur, qui se posent la question, quelle est ta volonté Seigneur? Quelle est ta volonté? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Aujourd'hui, oui, Dieu appelle, mais qui voudra répondre à l'appel de Dieu comme Abraham sans négocier? Sans négocier. Notez bien. Répondre à l'appel de Dieu sans négocier. Qui est prêt à quitter sa zone de confort pour dire, me voici, je te donne tout. Je te donne tout. C'est très facile à prononcer ces mots. Mais essayez de voir Abraham qui reçoit l'appel de Dieu en disant « Lève-toi ! » Est-ce facile de quitter son pays quand on est menacé, oui. Est-ce facile de quitter son pays quand on est bien ? Est-ce facile de quitter sa famille quand on est bien ? Est-ce facile de quitter son travail quand on est bien? Et de dire à toutes ces personnes, Dieu m'appelle, je m'en vais mais je ne sais pas où. Je me rappelle que quand nous étions à l'Agneau en 95, Dieu nous avait fait grâce en permettant à une famille aisée de nous recevoir et de nous prêter une grande maison alors qu'on venait de passer une année dans 9 mètres carrés et nous étions trois. Et dans cette grande maison qui nous avait été prêtée par une famille que Dieu a touchée sur les certains, on priait, on cherchait la face de Dieu et Dieu me dit, lève-toi, va étudier à l'ITB. Alors que je cherchais la face de Dieu. C'était mon désir, c'était mon désir. Mais j'étais partagé par le fait que j'avais une famille et qu'une porte aussi s'ouvrait pour moi pour aller travailler à l'université de Rennes. Mais j'ai entendu cette voix. Lève-toi. Mais j'avais pas d'argent. Comment je vais payer les études? Et comment nous allons vivre pendant ces 2 ans? Et ça n'a pas duré longtemps. Parce que là où j'étais dans cette grande maison de plus de 100 mètres carrés, dans le centre-ville de Lannion, je ne payais rien. Mais c'est Dieu qui avait touché ces gens qui ne me connaissaient pas. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais ces personnes-là, inconverties, que Dieu a touchées, ont été une bénédiction pour nous. Ont été une bénédiction pour nous. Et quand je leur ai dit que je partais avec ma famille pour aller à l'ITB, ils m'ont dit, mais tu es devenu fou. Tu es devenu fou. Mais il y a un travail qui t'attend. Mais tu ne peux pas partir dans une école comme ça. Tu n'as rien. Tu n'as pas de revenus. T'as pas. Je dis, Dieu me dit de partir. Qui est prêt à quitter? Alors vous me direz, oui, vous étiez réfugié, vous n'avez rien à perdre. Non. J'avais tout perdu, mais j'avais le Seigneur, mais je voulais reconstruire ma vie. Et le Seigneur me dit, c'est pas de cette manière que tu vas reconstruire ta vie. Mais ce qui est intéressant avec le Seigneur, c'est que quand il nous appelle, quel que soit ici l'appel, parce que Dieu précise toujours l'appel. Dans le cas de Saul de Tarse, quand il s'est converti, eh bien, le Seigneur a envoyé un homme, Ananias, et le Seigneur va préciser l'appel. Il va dire, mais le Seigneur lui dit, va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Amen. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Mais le Seigneur lui dit, va. Cet homme, c'est un instrument. Chers frères et sœurs, je dis bien quel que soit l'appel, nous sommes tous choisis. À partir du moment où nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous sommes le choix de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes le choix de Dieu. Et c'est une source de joie de mesurer que Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans sa pureté, eh bien, dirige ses regards, s'il ma vie, s'il ta vie, et il nous choisit. Vous ne pensez pas que c'est extraordinaire? Quand nous regardons, nous nous sentons indignes quand il s'agit de servir Dieu, de servir Dieu. Mais nous pouvons devenir un instrument de bénédiction pour les autres. Et c'est toujours ce que Dieu désire, que nous soyons des instruments de bénédiction. Mais là, il est question d'un appel véritable, non le fruit d'une imagination humaine, d'une ambition personnelle, parce qu'on peut avoir aussi des ambitions. On peut aussi avoir des ambitions pour être un grand prédicateur. Mais je parle de ce désir de servir Dieu où il veut, comme il veut, ce qui suppose beaucoup de sacrifices et d'abnégation. Dieu appelle. Qui entend sa voix? Dieu appelle. Ça peut être, comme j'ai dit, un appel précis pour faire telle chose, mais ça peut aussi être simplement un appel pour faire confiance à d'autres. On te dira ce que tu dois faire. Voilà ce que, dans un premier temps, Saul de Tarse a entendu. Lève-toi, va à tel endroit, on te dira ce que tu dois faire. Savoir écouter, savoir obéir. Oui, moi, je ne dépends que de Dieu seul. Sauf que Dieu a choisi des hommes. Et nous avons besoin Oui, Dieu a choisi des hommes. Tu n'es pas venu comme ça. Il a choisi ton père et ta mère. Tu n'es pas venu au hasard comme ça. La première chose que tu dois faire, c'est d'obéir et d'honorer ton père et ta mère. Et j'ajoute, quelle que soit la situation de ton père et de ta mère, si tu n'es pas réconcilié avec tes parents, tu ne pourras pas te réconcilier avec les autres. Si tu n'es pas réconcilié avec ta propre famille, il te sera difficile de fonder un foyer où il y aura la paix. Parce qu'il y a un problème dans ton cœur. Et tu traînes des situations qui t'empoisonnent et qui vont empoisonner ton foyer et ta famille. Et Jésus t'appelle d'abord à régler ce problème. Oui, pour partir sans savoir où aller, mais en se basant sur la parole de Dieu. Sœur de Tarse nous dit, et a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Vous vous rendez compte? Ils avaient l'ambition d'aller annoncer la parole en Asie. C'est noble, non? Annoncer la parole de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, les a empêchés. Et ils ont traversé la Phrygie, la Galatie, la Mysie, et alors qu'ils sont, ils se disposaient à entrer à Bithynie, eh bien, Paul nous dit, mais l'Esprit de Jésus ne les permet pas. Alors ils franchirent la Mysie et descendirent la Troas, et pendant une nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. Ils se disposaient, ils avaient à cœur d'aller annoncer l'Évangile en Asie, ce qui est une bonne chose, mais l'Esprit de Jésus ne les permet pas. Mais Jésus ne les a pas bloqués, mais il les a conduits. Il les a conduits. Mais le Saint-Esprit, c'est un GPS extraordinaire. Là, aujourd'hui, si vous n'avez pas de GPS pour aller dans des villes que vous ne connaissez pas, c'est difficile. Mais si nous pouvons faire confiance aux hommes qui ont construit cette petite machine-là qui nous guide, est-ce que nous ne pouvons pas aussi confesser et croire que le Saint-Esprit conduit nos vies et veut conduire nos vies? Le Saint-Esprit ne bloque jamais quand il est question d'annoncer l'Évangile. Mais il y a des priorités. Il y a des priorités qui sont déjà définies dans le ciel. Amen. Il y a des priorités qui sont déjà définies dans le ciel. Nous pouvons faire ce que nous voulons et Dieu bénira toujours. Mais si nous cherchons à entendre la voix de Dieu, eh bien le Seigneur nous conduira certainement. Nous conduira certainement. Il y a l'action de l'Esprit de Dieu. Il y a l'action de l'Esprit de Dieu. Il y a le surnaturel de Dieu qui entre dans le naturel de l'homme et lui révèle les choses cachées pour que ces choses cachées deviennent visibles. Viennent visibles. Mais ce qui est important, c'est que quand Paul a eu cette vision, eh bien, il a utilisé aussi son intelligence, concluant. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a conclu qu'il fallait aller, c'est eux qui ont pris cette décision. C'est que le Saint-Esprit a éclairé l'intelligence, la sagesse, pour que finalement, ils comprennent que si Dieu n'ouvrait pas la porte de l'Asie, eh bien, il les envoie en Macédoine. Chers frères et sœurs, je pense que c'est important pour que nous puissions être sensibles à l'action de l'Esprit de Dieu, même dans les petites choses de la vie. Même dans les petites choses de la vie. Oui, à l'action. C'est bien si nous entendons l'appel de Dieu. C'est bien si nous avons déjà remporté la victoire en disant « Oui, je quitte tout, je vais partir, je vais partir. » Mais il faut partir. Là, ça c'est autre chose, passer à l'action. Mais toujours à l'écoute de la parole de Dieu. Toujours à l'écoute de la parole de Dieu. Et la Bible, c'est ce qui est merveilleux, c'est pourquoi nous vous conseillons toujours de lire, de méditer la parole de Dieu. Il y a des exemples qui nous aident. Vous vous souvenez, les disciples qui sont sortis pour pêcher. Ils ont pêché toute la nuit et ils n'ont rien pris. Et voilà Jésus qui vient, qui dit à Simon Pierre, il dit, avance en plein eau. À l'endroit où ils avaient pêché toute la nuit. Et le Seigneur Jésus dit, jetez vos filets. Pierre a hésité. Il arrive que nous avons des hésitations. Et c'est normal. Nous avons des hésitations parce que nous sommes des hommes à qui Dieu a donné l'intelligence. Et nous réfléchissons. Nous réfléchissons. Et ce qui est merveilleux ici dans ce passage, c'est que Pierre a partagé ses réflexions à Jésus. Il lui dit, mais maître, nous avons travaillé toute la nuit à cet endroit-là. Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Sans que Jésus réponde, il s'est repris. Il dit, mais je suis en train de dire quoi? Mais qui est cet homme? Qui est c'est Jésus. Alors, il dit, sur ta parole. C'est comme s'il se dit, Seigneur, pardonne-moi, tu n'es pas un homme pour que tu changes ce que tu dis, eh bien, ça arrive. Eh bien, sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole. Où est-ce que tu vas jeter le filet, mon frère et ma sœur? Où est-ce que tu veux jeter le filet? Et je pense, voyez-vous, que concernant l'appel, nous avons tous l'appel. Nous avons l'appel pour nos familles. Amen. Nous avons l'appel pour que nos familles soient sauvées. Si vous avez des parents inconvertis, si vous avez des frères et sœurs, cousins, cousines inconvertis, eh bien, c'est bien. Parce qu'avec eux, il y a déjà un lien. Ce n'est pas des inconnus. Vous pouvez aller les voir, discuter des choses et d'autres. Et tout en demandant au Seigneur de dire comment je peux jeter le filet dans cette famille. Bien sûr que nous sommes sensibles à l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ferme cette porte-là, eh bien, il va nous envoyer à un autre endroit, auprès des amis peut-être, avec qui nous travaillons, qui, eux, certains sont complètement fermés à la parole de Dieu, mais il y a d'autres qui sont sensibles à notre témoignage. Et l'Esprit de Dieu nous conduira, et le moment venu, le Seigneur va dire, « J'ai été enfilé. » Parce qu'il a entendu nos prières, tes prières ont été exaucées. Pendant des mois, même des années, tu as prié, intercédé. Corneille, envoie chercher Pierre, tes prières et tes aumônes ont été entendues, exaucées. Maintenant, est-ce que Dieu nous prive de nos moyens humains, intellectuels et sentimentaux pour répondre à son appel? Est-ce que Dieu nous conduirait dans ses voies comme un dictateur? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Le jour où nous avons donné notre cœur au Seigneur, notre cœur est lavé, sanctifié, purifié, justifié. Nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu, il faut chercher l'Esprit de Dieu, puisque ça a été donné. Il nous a été donné. Et nous aimons le Seigneur. Nous ne disons pas que nous avons un appel pour lire la Bible, méditer la Bible. C'est la nourriture de tous les jours. Mais si nous avons cette communion avec le Seigneur, cette intimité dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu, alors nous entendrons la voix de Dieu et nous connaîtrons la voix de Dieu. Et nous ferons la différence entre la voix de Dieu et la voix de l'ennemi. Et nous dirons oui, me voici Seigneur. Me voici Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi. Concernant notre intelligence. Notre intelligence a de l'importance. C'est bien de connaître les choses surnaturelles de Dieu. C'est ce qu'a vécu Pierre, Actes chapitre 12. Il est jeté en prison, mais ce n'est pas lui qui a demandé que la lumière brille dans sa prison. Ça, c'est le surnaturel de Dieu qui a rencontré Pierre dans sa souffrance en prison. Ce n'est pas lui qui a demandé que l'ange intervienne, c'est Dieu qui a envoyé l'ange. Et ses chaînes ont été brisées. Ce n'est pas lui qui a ouvert la porte de fer, parce qu'il était incapable d'ouvrir la porte de fer. Mais quand il est arrivé dehors, eh bien, il pensait avoir un rêve, mais c'était la réalité. Il venait de vivre un miracle authentique, authentique. Alors, la Bible nous dit, après avoir réfléchi, il y a le divin qui vient d'accomplir des choses extraordinaires, c'est réjouissant, mais ce miracle-là a touché aussi son intelligence et il a réfléchi. Et nous devons utiliser notre tête, réfléchir, parce que notre intelligence aussi est sanctifiée. Et il a pris une décision, et cette décision, c'est d'aller voir des frères et sœurs qui étaient réunis, en train de prier, d'intercéder pour lui. Amen. Vive nos petites séries de prières. Amen. De la semaine, chez vous. Pourquoi ne pas constituer vos maisons comme des séries de prières? Priez, intercédez. Quand ils ont su que Pierre était en prison, eh bien, ils ne pouvaient rien faire d'autre que de prier. Mais je vous assure que la prière, c'est une arme redoutable. C'est une arme redoutable qui fait bouger le bras de Dieu. Et il est parti dire à ses frères qui étaient réunis, « Oh, cessez d'intercéder. Rendez gloire à Dieu. Je suis délivré. » Allez dire à Jacques, à d'autres, annoncez la bonne nouvelle de la délivrance. Amen. Comme quoi c'est bien quand Dieu vous bénit de témoigner, de rendre grâce au Seigneur. Parce qu'il fait de grandes choses, notre Dieu. Mais le Seigneur lui avait donné l'intelligence, il n'est pas resté sur place. Parce que là, cette fois-ci, c'était la mort assurée. Mais il est parti se cacher. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise de revenir. Oui, à l'obéissance, à la parole de Dieu. Sauf que nous découvrons que l'obéissance est souvent accompagnée par la souffrance. Et ça, nous n'aimons pas ça. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça, et souvent la première chose qu'on voit, on dit c'est le diable, c'est l'ennemi. Voici la promesse donnée à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Amen, c'est magnifique. Si vous entendez cela, vous êtes heureux. Je ferai de toi. Je vois Pascal devant moi. Je ferai de toi un grand homme de Dieu extraordinaire, tu vas bouleverser les nations. Alors ça, on aime ça. Et il continue, le Seigneur qui est Dieu de bénédiction. Je te bénirai. Oh là, ça c'est, je prends ça, Seigneur. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Oh oui, c'est merveilleux ça. C'est merveilleux. Mais première épreuve, eh bien, la famine qui sévit dans le pays de la promesse. Oh là là. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je pensais qu'il n'y a pas de problème. Eh bien, la première chose, c'est qu'il y a la famine. Et quand il y a la famine, quand il y a des épreuves, comment réagissons-nous? Il a mal commencé, Abraham. Parce que quand il a vu la famine, il a pris la décision de descendre en Égypte. Mais rien ne dit dans la Bible que c'est Dieu qui lui a dit de descendre en Égypte. Peut-être s'il était resté, eh bien, il aurait connu la bonté de Dieu à travers la famine. Sauf qu'en descendant en Égypte, il va commettre un autre péché. Alors, il va se rappeler que sa femme est belle. Je ne sais pas si je disais ça tous les jours, mais il se dit, là, ça va, ces gens-là. Je n'ai pas confiance en eux. Et il va faire un deal avec sa femme. Il va lui dire ceci. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront. Et ils te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Une demi-vérité, est-ce que c'est une vérité ou c'est un mensonge? Sauf qu'il va répéter avec Abimélec de la même manière. Il n'avait pas compris la leçon d'Abraham, et nous aussi souvent. Abraham, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Abraham? Pour jeter sa femme entre les bras de Pharaon, plutôt que d'accepter de mourir. Et les hommes que Dieu, on ne peut pas changer le plan de Dieu. Dieu avait choisi Abraham et Sarah. Et la bénédiction devait passer par Abraham et Sarah. Dieu va intervenir. Il va empêcher Pharaon de toucher Sarah. Il va dire, cet homme, c'est un prophète. Tu vas lui demander de prier pour vous. Dieu va intervenir miraculeusement. Heureusement, combien de fois aussi nous avons trahi, ne jugeons pas Abraham. Combien de fois nous avons trahi le Seigneur. Heureusement que lui demeure fidèle. Il nous a sortis plusieurs fois des situations compliquées à cause de manque de sagesse et d'intelligence, parce que nous avons eu peur de telle ou telle chose. Et nous avons agi selon nos sentiments, parce que nous n'avons pas pu mesurer que Dieu est capable, même dans la famine, de nous garder, de nous protéger, de nous nourrir. Et alors, on cherche des combinaisons. Mon frère et ma sœur, il faut cesser. Dieu n'entre et n'entrera jamais dans nos combinaisons humaines, jamais dans nos compromis et dans nos compromissions. Nous aurons nos yeux pour pleurer. Mais comme toujours, c'est un Dieu d'amour, il viendra nous relever. Mais faut-il que nous puissions avoir des cicatrices de nos désobéissances alors que Dieu veut nous protéger? Là, c'est le cas. Alors, pour être plus ou moins équitable, eh bien, ça, c'est un homme, le cas d'une femme. C'est le cas de Job et sa femme. Job est atteint, vous lirez le livre de Job, c'est extraordinaire. Eh bien, atteint dans sa santé, après avoir tout perdu, ses biens, ses enfants, eh bien, Job prit un tesseau pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. quand Job traite sa femme de femme insensée, c'est pas une insulte, non. Ça veut dire une femme qui n'a pas reçu la révélation de Dieu et qui agit par ses sentiments. Tellement elle a vu la souffrance de son mari. Elle-même, elle était touchée. Quand Job a perdu les biens, la femme a perdu les biens aussi. Quand Job a perdu ses enfants, sa femme aussi a perdu ses enfants. Mais cette fois-ci, elle allait perdre son mari. Il dit, mais tu continues de louer le Seigneur malgré tout ce que nous sommes en train de traverser. Si Dieu était là, il nous aurait protégés, gardés. Maudit ton Dieu. On peut comprendre qu'on peut dire des choses à cause de la souffrance. Et on voit ici l'exemple d'un homme qui est resté intact, en communion avec Dieu, même dans sa souffrance. Même dans sa souffrance. Et je ne sais pas ce que tu traverses ou ce que tu vas traverser. Mais le Seigneur nous appelle à être fidèles. Fidèles dans les petites choses. Parce que lui, il est toujours fidèle. Et je terminerai par le deuxième obstacle. C'est non à la violence, oui à la paix. Il est question ici de Lot, son neveu. La Bible nous dit que Dieu les avait tellement bénis. Maintenant, ce n'est pas la famine. C'est l'abondance. C'est l'abondance. Et quand l'abondance devient un piège, vous qui aspirez à être riche, très très riche, vous me direz, mais pasteur, il n'y a pas de problème. Quand je deviendrai riche, je vais enrichir les autres, c'est bien. Mais la richesse aussi est source de problèmes. Est source de problèmes. Ce n'est pas les hommes et les femmes qui sont source de problèmes. Ils étaient tellement riches que ce n'est pas les brebis, les bœufs qui ont causé des problèmes. Ce sont les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et Lot lui-même. Il y a eu des conflits. Est-ce que vous avez des conflits avec vos pasteurs? Ah, silence. Eh bien, si vous avez des conflits, si on vous mène une vie difficile, oh, priez pour nous. Amen. Priez pour nous. Et venez nous voir. Venez nous voir. Qu'il n'y ait jamais. Et ça, c'est la réponse que j'aime. Non! Aux querelles. Non aux disputes. Oui à la paix. On reconnaîtra l'homme de Dieu, la femme de Dieu, quand il a toujours la disposition de refuser le mal. De refuser le mal. Et Abraham va dire cette parole qu'il n'y ait, je t'en prie, de conflit entre toi et moi. Nous sommes frères. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et pourtant, c'est lui le patriarche. Il aurait pu dire « Oh, 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 tais-toi, là. » C'est son neveu. Et c'est lui qui l'a élevé. Il est devenu riche et il est incapable de faire taire ses bergers. Et comme un père, il va dire « Oh, qui n'y est ?» Il ne dit pas « Mon neveu », il dit « Nous sommes frères. Nous sommes frères. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Et lui donne le choix de... Il lui donne l'occasion de choisir en premier lieu. Choisis. Choisis. choisi. Qu'il n'y ait, je t'en prie, de problème entre toi et moi. Entre toi et moi. Je continuerai plus tard. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Et Dieu se dispose à nous aider pour que nous soyons ses témoins fidèles. Mais les épreuves que nous pouvons rencontrer dans notre foyer, dans notre famille, les épreuves que nous pouvons rencontrer dans le travail et en dehors du travail, s'il vous plaît, que cela ne vienne pas cacher l'amour de Dieu, que cela ne vienne pas entraver l'œuvre de Dieu et qu'on ne jette pas l'éponge en disant, si c'est comme ça, j'abandonne tout. Non, Dieu est avec nous, quelles que soient les circonstances et les événements. Mais nous pouvons dire comme Abraham, j'ai tout quitté, Seigneur, je t'ai suivi. Certes, il a fait des erreurs en descendant et en essayant de faire un deal avec sa femme. Mais Dieu l'a relevé, il est intervenu. Et à partir de ce moment, il a pris une leçon. Et il dira à son neveu, à son frère, non, qu'il n'y ait pas de conflit. Dieu, c'est un Dieu de paix. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et nous sommes appelés dans ce monde à être les témoins de Jésus-Christ, de ce qu'il est et de ce qu'il a fait dans nos cœurs et dans nos vies. C'est ainsi que nous pourrons influencer, pour ceux qui sont adultes, nos enfants. C'est ainsi que nous pourrons influencer nos familles. C'est ainsi que nous pourrons influencer le monde si nous laissons le Seigneur continuer cette œuvre de changement et de régénération. Alors, nous pourrons entrer pleinement dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et si une porte est fermée, l'Esprit de Dieu nous donnera des rêves et des visions et pour que nous puissions aller où il veut et faire ce qu'il nous demande de faire. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous rendons grâce à ton nom. Nous rendons grâce à ton nom parce que, Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Tu demeures fidèle. Pardonne-nous nos infidélités, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Dans le nom de Jésus, relève chacun d'entre nous, Seigneur, que la souffrance ne vienne pas cacher, Seigneur, ton amour. Que aucune chose ne nous sépare de toi. Aucune chose ne nous sépare de nos frères et sœurs, de l'Église de Jésus-Christ. Merci de pardonner nos imperfections. Mais aide-nous à entrer pleinement dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, Amen.